Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Difficile de lire un texte de Michel Serres sans avoir à l'oreille la musique de sa voix. C'est justement de musique dont il a décidé de parler dans son dernier livre intitulé « Musique », un livre qui longe, selon ses mots, le fleuve musical qui descend des bruits du monde vers le sens des langues et les performances des sciences. Une fois encore, c'est sous la forme d'un récit que la pensée philosophique de Michel Serres conduit le lecteur à suivre Orphée pour explorer le monde, pour être au son de sa lyre, pour être en harmonie avec le nouvel humanisme qu'il propose. Michel Serres aime à parler plusieurs voix, la langue des sciences, la langue d'histoire, et nous raconte cette fois comment l'homme universel dont il tente de faire le portrait au fil de ses livres et de sa vie aime en musique, pense en musique. Michel Serres loue, chante, l'expression la plus complète de l'humanité, la musique, par un récit légendaire, mais aussi autobiographique, des variations dont il aime jouer dans son écriture. 200 pages parues dans la collection Essais aux éditions Le Pommier en mars 2011, Musique, l'ouvrage de Michel Serres. Merci d'être avec nous, monsieur.
Merci de m'avoir invité.
Sur la couverture, on a deux anges musiciens.
Deux anges musiciens, oui.
Quel est le lieu de naissance de la musique, Michel Serres ?
Nous l'ignorons. Ça dépend de ce que vous appelez lieu de naissance, parce que généralement, on pense histoire, c'est-à-dire on va régresser dans le temps pour savoir à partir de quel moment la musique est née. Eh bien, on a beau le faire, on n'y arrive pas. On a bien sûr, en Ukraine, on a trouvé des lieux où il y avait des instruments de musique, des proto-instruments de musique, etc. Mais bien entendu, cette quête-là, cette quête des sources historiques est impossible à mener. Et par conséquent, quand vous me posez la question « quelle est l'origine ?», eh bien, c'est bien la question que je me suis posée d'une certaine manière. Mais au lieu de la poser à un historien, parce que, ou même à un archéologue, ou même à un paléo-archéologue, ben, c'est très difficile à poser ainsi, puisqu'on n'a pas de témoignages. C'est très difficile d'avoir des témoignages solides ou conservés de quelque chose aussi impalpable que la musique, forcément, ou même que l'instrument à la rigueur. Et par conséquent, la seule issue pour répondre à cette question, c'est qu'est-ce que c'est que la musique ? Vous voyez, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un ensemble de sonorités, mais qu'est-ce que c'est ? Comment pouvoir traiter ce type de sonorité ? Bon. Alors évidemment, on a à notre disposition des sciences. On a l'acoustique, on a la physiologie. L'acoustique, c'est le traitement des sons, bien sûr. On a la physique, pour ce qui est du bruit de fond, par exemple. On a la physiologie, pour savoir ce que c'est qu'une oreille, ce que c'est que des cordes vocales, etc. Mais ce n'est pas la question vraiment que je voulais poser. Je ne suis ni médecin, ni biologiste, etc. Et la question « qu'est-ce que la musique ?» est très difficile à résoudre. D'ailleurs, je ne connais pas vraiment de philosophe ou de personne ou d'écrivain qui ait tenté de résoudre cette question terrible « qu'est-ce que la musique ?» Et j'ai eu assez de folie pour me la poser.
Tenter l'aventure.
Alors, je reviens à la question que vous posez, l'origine. Ben, la première origine à laquelle on peut penser, c'est les bruits du monde. Et les bruits du monde, nous les connaissons, c'est la pluie qui tombe sur la vitre, c'est les bruits de l'orage, du tonnerre, c'est les bruits du séisme, si vous voulez, ou d'une éruption volcanique. J'ai eu la chance d'être dans un séisme de très forte amplitude sur la faille de Saint-André en Californie en 89. 7,2, c'était même supérieur, si vous voulez, au séisme de Haïti. Là, on a des bruits du monde. Bon, et la deuxième catégorie de bruits auxquels on est confronté, c'est les bruits des vivants. Et je raconte par exemple cette histoire extraordinaire qui est l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Vous l'avez lu dans mon livre, n'est-ce pas ? Vous savez que la théorie des plaques, les plaques remontent à partir de la Pangée, c'est-à-dire de l'hémisphère sud, enfin presque du pôle sud, et elles remontent tout doucement, et ça donne l'Australie d'un côté, la Nouvelle-Calédonie de l'autre, la Nouvelle-Zélande. Et à mesure que ces plaques se vieillissaient, si vous voulez, ou se refroidissaient, des animaux étaient là, il y avait une sorte de lutte pour la vie, comme vous le savez, au sens de Darwin. Et il se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est les reptiles qui ont gagné, qu'en Australie, c'est les marsupiaux qui ont gagné. Et, extraordinaire aventure, c'est en Nouvelle-Zélande qu'ont gagné les oiseaux. Ou c'est les oiseaux qui ont gagné en Nouvelle-Zélande. Et ils se sont multipliés là en tant qu'espèces, vous voyez, mais alors des milliers d'espèces. et on peut imaginer le concert extraordinaire que pendant des millions d'années, personne n'a entendu en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'il y avait des millions, des milliards d'oiseaux qui devaient sans doute s'adonner au plus extraordinaire des concerts qu'on n'ait jamais entendu, bien sûr. Mais il est arrivé, hélas, une aventure en Nouvelle-Zélande, c'est que les hommes y sont arrivés un jour d'ailleurs très récent, puisque les Maoris n'y sont arrivés que 100 ans avant les Anglais et les Français, et que là, les espèces aviaires étaient parfaitement innocentes et naïves et se posaient sur les épaules et les mains des matelots qui étaient... complètement idiots, et ils ont commencé à les manger, à les détruire, etc. Et je compare ça à la fameuse symphonie de Haydn, Les Adieux, où précisément, parce que l'orchestre n'était pas payé par le duc et père qui les utilisait, ils s'en vont avant de finir l'un après l'autre, et il n'y a plus que quelques... Voyez. Et c'est ce qui est arrivé, hélas, en Nouvelle-Zélande, où le concert s'est tout un peu appauvri, n'est-ce pas, et voilà. Alors là, c'est une deuxième origine, c'est le bruit que font les vivants. Alors je prends les oiseaux, évidemment, parce que c'est les plus mélodieux d'entre eux, mais il y a quand même aussi le bruit des baleines en mer, que nous n'entendons pas aussi bien que les bruits des chacals, les abois des chiens, etc. Et c'est le deuxième, et bien un troisième bruit, vous en avez d'ailleurs parlé dans votre introduction, c'est le bruit de fond de notre propre corps. Si on fait attention à notre propre sens interne, on entend le bruit du cœur, le bruit de la respiration, le bruit que fait pratiquement la digestion quelquefois, ainsi de suite. Voilà, on est confronté à trois sortes de bruits. Est-ce que c'est de là que vient la musique ? Je l'ignore, mais il est probable qu'à un certain moment, nos ancêtres... Mais il y a aussi une autre chose, c'est le bruit du collectif. Eh oui, le bruit de la foule, le bruit des enfants qui crient, le bruit, etc. Voilà quatre bruits à partir desquels j'ai travaillé pour essayer de voir comment on passait de ces bruits à la musique. Voilà.
Vous nous embarquez avec Orphée dans une première partie.
Oui, hein. Oui. Mais justement, Orphée commence par là.
C'est-à-dire, et il apprend à devenir musicien. Donc il devient musicien et il apprend à composer, à écouter ces bruits, etc.
C'est ça, les bruits du corps, les bruits du monde, etc.
Par votre
récit. Et alors ce pourquoi j'ai choisi Orphée, c'est que comme il était très difficile de répondre de façon abstraite à la question « qu'est-ce que la musique ?», qui est vraiment la question que je me pose de façon...
Et vous en donnez au fur et à mesure.
Au fur et à mesure, je donne des définitions au fur et à mesure.
Qui se complètent.
Je me suis dit, mais est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de prendre, non pas un concept, non pas une idée, non pas, etc., mais un personnage trait d'union concept, vous voyez, c'est-à-dire un personnage qui réunirait autour de lui ce que c'est qu'un auditeur, ce que c'est qu'un clameur, ce que c'est qu'un parleur, ce que c'est qu'un compositeur, ce que c'est qu'un éloquent, etc., vous voyez. Et alors j'ai pris trois personnages pour m'aider, vous voyez, un personnage de type mythologique, c'était Orphée, un personnage de type historique, bon, je me suis choisi moi-même. Et bon, comme ça, mais il aurait pu être une autre personne. Et puis ensuite, j'ai pris le grand récit religieux. Voilà. Et on en parlera, si vous voulez, tout à l'heure. J'ai pris
trois entrées,
mythiques, historiques, religieux. Ouais. Ou autobiographiques, si vous voulez.
Autobiographiques. Alors, dans la première partie, justement, vous donnez déjà quelques définitions, quelques pistes. Mais tout de suite, vous dites que, très très vite, que les mathématiques sont issues de la musique. C'est aussi une des grandes...
C'est-à-dire que...
Un thème qui revient dans les trois, évidemment.
C'est un thème qui revient dans les trois.
Thèse. Enfin,
Oui, c'est-à-dire que je vais donner à un moment à la musique un rôle gigantesque, c'est-à-dire un rôle de presque matriciel. Je vais pour les auditeurs préciser un point, s'il vous plaît.
Oui, oui.
Dans le monde moderne, nous croyons que les images sont absolument porteuses d'informations. Ce n'est pas vrai. L'image est pauvre. Je vais donner un exemple très simple. Dans ma promotion de l'école normale, il y avait un aveugle. Et c'est sans doute cet aveugle-là qui a fait la performance intellectuelle la plus forte. Il est rentré au concours lettres et il est sorti agrégé de maths. C'est-à-dire qu'il a bifurqué au milieu. Donc un aveugle peut, avec son handicap, faire des performances intellectuelles de premier ordre. Un sourd n'y arrive pas. Un sourd muet n'y arrive pas. Et donc là, on voit très bien que le son est 10 fois plus informatif, 100 fois plus, 1000 fois plus informatif que l'image. Voilà. Et donc, je donne...
Là, vous êtes très véhément. Hein.
Ah oui, ça, sur le son, je donne beaucoup d'importance à cette origine-là. Et bon, si on est sérieux, on s'aperçoit que les premières gammes, les premiers travaux concernant l'échelle des sons a été probablement, d'après ce qu'on peut savoir des origines vraiment de la géométrie en Grèce, à l'origine de l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire probablement de la géométrie elle-même. est de dire que quand je raconte l'histoire d'Orphée, je lui fais d'abord rencontrer dans son voyage tous ceux qui, dans l'Antiquité grecque ou ailleurs, est synonyme de bruit. C'est-à-dire les ménades, les bacchantes, les pythies, c'est toutes ces femmes qui braillent, vous savez, qui crient, qui hurlent, vous voyez, et qui, dans des soirées chaotiques, faisaient beaucoup de hurlements. Et peu à peu, après avoir rencontré ces femmes-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans mon livre, c'est très féminin, mon livre, il rencontre les muses, qui sont précisément, si vous voulez, les personnages conceptuels, on peut dire ça, qui permettent de passer du bruit au son, voilà, du bruit à la musique. Et là, le passage entre les ménades et les muses est absolument décisif. Et c'est ça, peut-être, mon traitement de l'origine de la musique. Vous voyez ? C'est-à-dire le passage entre les bacchantes, les ménades, toutes ces femmes qui hurlent, et puis ces femmes qui lissent le bruit de fond.
Et lui qui tente d'harmoniser, de composer, par son chant, par sa lyre.
Et puis de dire aussi que la musique, alors là, on a une bonne définition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de muse de la musique. Il y a des muses d'astronomie, il y a des muses de ceci, de la danse, etc. Mais qu'est-ce que la musique ? C'est l'art de toutes les muses.
Et par conséquent,
des neuf sœurs.
Des neuf sœurs.
C'est, par conséquent, la musique, c'est l'art premier. Il n'y a pas de doute. Quelle est l'origine de la musique ? C'est la musique. Vous voyez, c'est-à-dire la musique est, je ne sais pas, vous prenez un livre, ma chère, et si ce livre n'a pas de musique, vous savez, vous pouvez le jeter par la fenêtre, il est complètement nul. Et c'est vrai de la peinture ou de l'architecture, vous voyez. La musique est l'art fondamental.
Alors, vous dites que c'est d'abord la voix, le chant, le rythme.
Le rythme est très important.
Et on va peut-être retrouver un peu les mathématiques.
Oui.
C'est même avec
mais
Orphée,
le rythme,
dans
le
ce
rythme,
voyage
initiatique. C'est quelque chose, si vous voulez, si vous regardez vraiment l'environnement autour de vous, vous allez trouver des rythmes partout. Je veux dire par là qu'il y a le rythme des jours, le rythme des mois, le rythme des événements célestes, si vous voulez, le rythme des saisons, le rythme des plantes. C'est, on rentre dans le vivant, là, le rythme des amours, etc. Et puis le rythme de votre corps, c'est-à-dire le rythme du cœur, le rythme du pouls. Les horloges biologiques sont multiples, la menstruation, etc. Bon. Et puis le rythme de la vie et de la mort, etc. Et vous allez vous rendre compte là que l'être au monde, notre rapport au monde, est d'abord un ensemble de rythmes, vous voyez ? Et que si vous n'êtes pas conscient de cet ensemble de rythmes, vous ne comprenez rien ni aux choses inertes, ni au monde, ni aux vivants, ni à votre corps. Les horloges sont toutes là, mais il y en a des multitudes. Et je crois que la composition musicale tient compte, effectivement, de cette multitude d'horloges.
D'horloges, de rythmes. Vous dites « le corps compte sans savoir les nombres, la tête sait qu'elle compte, elle nomme ses nombres, la musique compte au moyen de nombres sans nom. »
Sans nom, c'est-à-dire que la mesure est évidemment fondamentale dans la musique, et c'est même dans le voyage d'Orphée, la première rencontre qu'il fait avec les muses, c'est la muse qui imite, vous rappelez,
oui,
le mime.
Le mime.
Mais qu'est-ce que c'est que le mime ? Si je fais le même geste que vous, vous voyez, à un certain moment, le rythme va rentrer. Le mime est dans l'espace, ce que le rythme est dans le temps. Et du coup, il apprend le rythme avec le mime. Et c'est la première rencontre qu'il fait avec les muses. Et donc, à mesure que Orphée rentre dans la société des muses, il commence à composer peu à peu de la musique avec le rythme, les instruments, la voix et ainsi de suite. Voilà.
Cette musique, la musique que nous croyons si forte.
Vous voyez que je traite là de l'origine de la musique.
Voilà, bien sûr.
Et bien voilà. Et puis de la nature de la musique. C'est-à-dire tout d'un coup, on s'aperçoit que la musique fait le lien entre le bruit et la parole.
Entre le bruit et la parole. Et la musique est aussi fragile. Ça, vous en parlez assez vite.
Parce qu'à un certain moment, Orphée, quand il devient compositeur, il est le maître du monde. Vous avez remarqué. C'est-à-dire, les plantes et les animaux s'inclinent devant lui quand il passe. Les roses n'ont plus d'épines. Vous voyez, les buissons s'effacent devant son passage. Donc il devient le maître, oui, le maître du monde. Le musicien, c'est le maître du monde. Cependant, cette maîtrise est extrêmement fragile. Et de la même façon qu'il avait rencontré au début des femmes qui hurlaient, eh bien, à la fin, il les rencontre aussi et la musique retombe dans le bruit. Vous voyez ? Voilà. Et les femmes en question le dépècent en morceaux.
Et,
c'est la fin tragique d'Orphée.
Voilà.
La musique est à la fois la matrice de tout, mais aussi tellement fragile qu'elle peut s'effondrer dans le bruit de fond.
Est-ce que vient de là cette idée de mosaïque que vous avez donnée à la musique ?
Oui, le mot mosaïque n'est pas du tout un mot qui est lié, si vous voulez, à l'adjectif composé sur Moïse. On dit la loi mosaïque, mais c'est une autre façon de dériver. Mais le mot mosaïque, au sens de l'art, c'est dérivé de la musique. C'est le même mot que musique. un autre mot pour musique.
Pour musique.
Alors, la musique est une mosaïque aussi de sons, de variétés de notes, de variétés d'intentions sonores et ainsi de suite.
Mais sommes-nous sourds, Michel Serres, et à quoi sommes-nous sourds d'après vous ?
Les premiers sourds, c'est ces marins abominables qui ont tué les oiseaux en Nouvelle-Zélande. Oui. Je dis même qu'ils sont essoriés, c'est-à-dire ça veut dire qu'ils n'ont plus d'oreilles, ils n'ont pas d'oreilles. Et la métaphore ou l'histoire de ces marins-là est une histoire à nous. Combien de gens je rencontre qui sont sourds, je veux dire par là, qui n'entendent pas le bruit des oiseaux, qui n'entendent pas les bruits du monde, qui n'entendent pas le bruit des vivants, et qui peut-être ne s'entendent pas eux-mêmes. Et une preuve de cela, c'est l'ennui profond où l'on est lorsqu'on écoute quelqu'un. C'est une expérience que nous avons tous, des professeurs abominables, des parleurs qui ne savent pas parler. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de musique. Parler, c'est avoir une musique, avoir sa propre énonciation de voix. Il n'y a pas de parole sans musique, il n'y a pas de doute. Et c'est pour ça que je dis dans le second chapitre que je suis un musicien raté. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ?
Un écrivain, pour vous ?
Un écrivain, c'est quelqu'un qui a de la musique. C'est-à-dire, si la phrase n'est pas rythmée, si la phrase n'est pas composée avec des voyelles à leur place, des i, des o, des endroits bien déterminés, des consonnes bien répétées ou pas répétées, etc., bien, c'est quand même une composition musicale. Si vous n'avez pas cette composition musicale, ne soyez pas écrivain, c'est pas la peine. Même pas parleur, je sais pas. Même pas professeur, vous voyez. C'est-à-dire, je trouve que nous sommes dans un monde où il a perdu l'éloquence. Vous avez remarqué. C'est-à-dire, les hommes politiques sont abominablement ennuyeux. J'ose pas dire les avocats, parce que je fréquente pas beaucoup les plaidoiries, bien entendu. Mais d'une certaine manière, l'éloquence était un art presque obligatoire entre, disons, la rhétorique grecque, c'est-à-dire des millénaires, jusqu'à récemment. Récemment, où il y avait des hommes politiques ou des avocats éloquents. Je ne sais pas, Aristide Briand, par exemple, ou des gens comme ça. Mais aujourd'hui, cette éloquence est perdue, c'est étrange, n'est-ce pas ? Alors que le peuple français adore l'éloquence, bien entendu. Oui.
Vous parlez justement de ces différences culturelles, des pays latins qui vous ont permis aussi de découvrir ces différentes musiques.
Je raconte aussi dans ce second chapitre que quand j'étais dans le Romance Language Department en Amérique, où on enseignait parallèlement l'espagnol, l'italien, le français, le roumain, le portugais, etc., c'est-à-dire les langues latines, quand nous nous réunissions, nous, professeurs, au restaurant, c'est-à-dire au faculty club, nous nous amusions à parler chacun notre langue. Et nous nous comprenions parfaitement. Et qu'est-ce qui nous rapprochait ? Bien, la musique commune de ces langues-là, il n'y a pas de doute. Il y a une musique commune à la latinité, qui n'est pas du tout d'ailleurs celle ni de l'allemand, ni de l'anglais, bien entendu. Mais là, il y avait une sorte de communauté musicale, d'élocution éloquente. Voilà.
Vous en êtes amené à dire que la musique est peut-être la mère de toutes les langues.
Ah oui, je le crois. Ah oui, il n'y a pas de doute.
La souche des langues.
D'ailleurs, nous en avons, je crois, je ne le dis pas dans le livre, mais nous en avons des signes. Lorsqu'on dit un accent aigu, un accent grave, ou un accent circonflexe, on a encore des traces de la musicalité de nos langues, oui, il n'y a pas de doute.
Ces dernières années, la musique a pris une extension temporelle et spatiale
considérable.
Qui a changé nos mœurs et partout dans le monde, quelles que soient les générations aussi, c'est assez nouveau.
Oui.
Justement, que signifie pour vous cette évolution et de quoi est-elle le signe ?
Je ne sais pas très bien, ça c'est quelque chose. D'abord, je n'appelle pas ça la musique, j'appelle ça la musac.
Voilà.
Oui, parce qu'elle n'est pas toujours de qualité, bien entendu. Et le fait qu'elle ait envahi à la fois l'espace et le temps est un événement culturel et civilisation considérable, absolument considérable. Je vais vous en donner une preuve, c'est que les petites chansons pour enfants que nous chantions il y a à peine des dizaines d'années étaient des chansons qui condamnait la musaque, d'une certaine manière. C'est-à-dire, lorsqu'on disait « Maudit sois-tu, carillonneur », c'était un canon que nous chantions étant enfants, que Dieu créa pour mon malheur, et à la pointe du jour, à la cloche, il s'accroche. Vous voyez, ça voulait dire qu'on entendait du son 4 fois par jour. On entendait la cloche 4 fois par jour, ce qui est très très peu. Et les gens étaient horrifiés par cette agression sonore. Mais qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui, n'est-ce pas ? Où l'agression sonore est partout, non seulement les bruits que vous entendez des moteurs, etc., mais de la musique qui est à peu près partout.
Y compris dans les cafés ?
Y compris dans les cafés, dans les restaurants, dans les... Je rêve d'un guide Michelin qui déverserait des étoiles aux endroits sans musique, vous voyez ? Bon. Et là, il y a un phénomène sur lequel vous m'interrogez et sur lequel je ne suis pas sûr de vous répondre. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'en effet, la musique se soit propagée comme ça ? Alors, il y a une idée terrible derrière ça, et que j'ose à peine vous dire, c'est que dans les régimes autoritaires et fascistes, les réunions de plus de 2 ou 3 personnes sont interdites. Donc, on n'a pas le droit de se parler. Mais si vous avez devant vous une personne avec le casque, vous savez, etc., vous ne pouvez pas lui parler, donc les réunions en question sont en effet interdites, mais lui-même qui a son casque, il ne peut pas se réunir à lui avec lui-même. C'est-à-dire, il est possible que cet envahissement de la musique soit un signe terrible du point de vue politique. C'est-à-dire, même quand vous êtes en silence tout seul, vous entendez non seulement votre estomac ou votre cœur battre, mais vous entendez ce qu'on appelait autrefois votre propre voix intime. Vous voyez, et cette voix intime est un peu aujourd'hui effacée par cette musique. Voilà, j'en ai un peu peur, ouais, de cet envahissement, oui.
On ne peut pas plus ou moins se retrouver.
On ne peut pas se retrouver, on ne peut pas retrouver les autres. Je m'amuse à dire qu'il y a un endroit de Stanford où j'enseigne depuis 40 ans, qui est une colline sur laquelle on peut courir ou on peut marcher. C'est un endroit, si vous voulez, de récréation. Et autrefois, il y a à peine 10 ans, quand j'allais sur cet endroit-là, on se disait bonjour les uns aux autres. C'est-à-dire que c'était la communauté des gens qui faisaient du jogging ou qui marchaient sur cet endroit-là. Aujourd'hui, tout le monde est enfermé dans son casque, etc. Je ne même dis plus bonjour. Vous voyez, il y a des monades solitaires qui se promènent comme ça. C'est étrange.
Alors la musique est source aussi donc, d'organisation de nos sociétés.
D'organisation sociale, oui.
D'organisation sociale.
Ce qui me frappe le plus dans cette affaire-là, c'est deux choses, c'est deux personnages, les aborigènes d'Australie et les anges, qui sont sur ma couverture. Les aborigènes d'Australie, ils chantent et ils dansent, et leur danse, si vous la déchiffrez bien, c'est de la géographie, le saviez-vous ? C'est-à-dire, ils décrivent exactement l'endroit où ils vont aller, ce qu'ils vont rencontrer, le désert, les animaux, les arbres ou les morceaux de buissons qu'ils rencontrent dans le désert, etc. Donc, il y a dans leur musique, il y a quelque chose comme une information spatiale. Mais les anges, eux, sont des messagers. Le mot « ange » veut dire « messager ». Et ce message-là, en quelle langue les anges portent-ils leur message ? Réponse, en musique. Et c'est pour ça que les anges sont représentés presque partout comme des anges musiciens.
Alors, dans la troisième partie du livre, ça s'appelle Verbe.
Il s'appelle Verbe.
Verbe, naissance louange. Et louange, oui. Jaillit de la Genèse, un fleuve musical modelant et produisant le temps, descend les siècles torrentiellement.
Voilà. Et vous m'avez demandé au début quelle est l'origine de la musique. Et je reviens à cette question. Et cette origine-là, je vous ai donné une origine, disons, naturiste, avec les bruits du monde, etc. Et puis, je me suis aperçu que dans certains événements de l'Évangile, par exemple, il y a 2 femmes enceintes qui se rencontrent. On appelle cette scène la visitation. C'est Marie, qui est enceinte de Jésus, qui va dans la montagne rencontrer Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste. Et là, il se passe une scène qu'on appelle la visitation, et qui est intéressante parce que ce qui est raconté dans l'Évangile selon Saint-Luc, c'est que lorsqu'elles se rencontrent, elles se saluent, et au moment où elle entend le salut, Élisabeth sent son enfant bouger dans son ventre. Et là, elle est prise dans l'esprit, etc. Elle est prise dans... Et on voit très bien qu'il y a là une scène originaire. mais non pas au sens historique, non pas au sens naturiste, comme j'ai dit, non pas au sens philosophique, mais au sens charnel réellement du terme. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui bouge dans son ventre et dans son corps. Mais dans son ventre, il y a un autre corps qui est un corps silencieux, qui est le corps du précurseur, vous voyez. Et il y a une sorte de court-circuit tout d'un coup entre quatre personnages, entre Élisabeth, mère, qui va être mère, Marie, qui va être mère, le corps du précurseur de la parole, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et le corps muet de celui qui va devenir le Verbe. Et là, il y a une sorte d'événement extraordinaire, de quatuor exactement, qui va se jouer dans le Verbe, qui va donner naissance à un des plus beaux poèmes de toutes les langues, c'est le Magnificat, vous voyez. Et le Magnificat, quand on voit les paroles qui sont dites, c'est des paroles qui disent « les plus riches vont devenir très pauvres, les pauvres vont devenir très riches, les malheureux vont devenir très heureux, moi qui suis humble, je vais devenir quelqu'un dont les générations vont parler ». C'est une sorte de battement d'une onde qui est absolument musicale, vous voyez. Et on a l'impression là que se joue vraiment une origine de la musique, vous voyez, à travers la chair de deux femmes et de deux hommes, dont l'un, curieusement, s'appelle le Verbe, c'est-à-dire la parole. Et là, je crois qu'il y a dans la Visitation, ça m'a absolument ébloui, une scène originaire, mais vraiment au sens philosophique du terme. Alors, quand vous me posez la question... Quelle est l'origine de la musique? J'ai envie de vous répondre, le ventre d'Élisabeth.
C'est une musique que vous qualifiez de musique somme?
Oui, c'est une autre question. Qu'est-ce que c'est que la musique somme? Ce que j'appelle la musique somme, c'est la chose suivante. C'est que lorsque je parle et lorsque vous parlez, ce que je comprends que vous dites, c'est une désignation. C'est-à-dire, je vais vous parler de ce verre avec de l'eau qui est dedans, je vais vous parler du temps qu'il fait, je vais vous parler du bateau que je vois passer sur la Seine, donc je désigne quelque chose. Et cette désignation a un sens, ça, le sens de l'objet vert, le sens de l'événement du bateau qui passe, etc. Mais si je joue de la musique devant vous, si je vous transmets de la musique, quel est le sens? Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bateau qui passe, il n'y a pas de ciel bleu, il n'y a pas de chose. Et quel est ce sens? Ah! Mais il n'y a pas de sens. Ah, mais alors, c'est une désignation sans sens. Oui, il n'y a pas de sens. Mais c'est curieux, s'il n'y a pas de sens, c'est peut-être que vous pouvez m'envoyer un message privé de sens, et pourtant vous le comprenez, n'est-ce pas? Et alors, je crois que dans cette absence de sens, il se joue quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors que je vais raconter autrement maintenant, et je vais vous dire, mais à supposer que vous me disiez en algèbre le mot X, ça n'a pas de sens. Ah non, ça n'a pas de sens, mais ça a tous les sens. Ou si je vous fais voir cette feuille de papier, elle est blanche. Elle est de quelle couleur? Elle n'a pas de couleur. Ah si, si, elle a toutes les couleurs. Et dès lors que vous dites, il n'y a pas de sens, il y a tous les sens. Il n'y a pas de couleur, il y a toutes les couleurs. Vous voyez, il n'y a pas de valeur pour X, il y a toutes les valeurs. Et je crois que c'est pour ça que la musique est originaire, parce qu'elle n'a pas de sens, mais elle a tous les sens. Voilà. Elle a tous les sens, c'est-à-dire elle peut supporter la totalité des langues. Et voilà une origine vraiment extraordinairement précise, vous voyez, de dire que la musique est totipotente, vous voyez, comme on dit des cellules souches, elles peuvent être tout. Et c'est pourquoi la parole, celle qui dit le verre, celle qui dit le bateau qui passe, etc., si elle n'est pas supportée par la musique de l'éloquence ou la musique qui supporte le son, alors elle n'a presque plus de valeur. Vous voyez. Il faut que cette... musique qui a tous les sens supporte un peu, si vous voulez, comme ces partitions où la main gauche est en train de décrire un coussin de velours et où la main droite pique 3 ou 4 diamants sur le coussin de velours. Voilà, tout simplement.
À qui avez-vous voulu rendre hommage, justement, dans cette dernière partie? Vous parliez des précurseurs.
Oui, je parle beaucoup des précurseurs parce que dans la scène de la Visitation, il y a Jean-Baptiste et Jésus. Et Jean-Baptiste est considéré comme le précurseur du Verbe, vous voyez. Eh bien, la musique elle-même est le précurseur de la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Au sens que j'ai donné tout à l'heure à ce mot. Pas de sens, tous les sens. Alors, il y a une sorte de précurseur, là. Et moi, mon métier autrefois, ça continue un peu quand même, et d'être historien des sciences, et je vois très bien que les gens à qui on rend hommage comme inventeurs de telle ou telle découverte scientifique, souvent des précurseurs beaucoup plus géniaux qui ont réellement, eux, inventé, mais qu'on oublie complètement, à qui on coupe le cou, comme à Jean-Baptiste. Par exemple, on dit c'est Copernic qui a inventé la... Tu parles, Copernic. On savait que le Soleil était le centre et que la Terre tournait autour du Soleil depuis les astronomes grecs. Vous voyez, tout ça, c'est des précurseurs complètement oubliés. Et pourquoi Copernic, j'en sais rien. Pourquoi Galilée, j'en sais rien. Mais l'histoire a décidé ça de façon parfaitement injuste. Vous voyez. Donc les précurseurs, c'est quelque chose qui, en effet, m'intéresse beaucoup.
Pourquoi avoir fait ces trois incursions, ces trois variations dans la légende, dans le récit autobiographique, on le sait assez, c'est un peu votre méthode, connaît, et cette incursion
sur un chemin religieux. Eh bien parce que, pour une raison très simple, je vais essayer de m'expliquer. Comment parler de la musique? Vous entendez cette question, parler de la musique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je parle... Ça n'a qu'un sens. Comment, avec un instrument qui n'a qu'un sens, parler de quelque chose qui a tous les sens? C'est impossible. Donc, je suis coincé, c'est-à-dire ce pourquoi il n'y a pas vraiment d'œuvre philosophique. Si, vous trouverez 1000, 10 000, des millions de bouquins sur Rachmaninov, sur Chopin, sur la musique hindoue, sur etc. Vous avez de la musicologie, vous avez de l'histoire de la musique, vous avez des... tout ce que vous voudrez, mais aucun ne pose la question, qu'est-ce que c'est ça, la musique? Bon. Or, pourquoi c'est impossible à résoudre? Parce que parler, c'est une espèce de canal qui n'a qu'un sens, et que la musique est un océan. Comment, avec un canal, faire passer l'eau de l'océan? Réponse impossible. Donc, dès le départ, le philosophe ne peut pas répondre à la question « qu'est-ce que la musique ?» Il ne peut pas écrire ni parler avec le langage sur la musique. Le langage est incapable de parler de la musique. Voilà, c'est ça, finalement, l'obstacle majeur. Et par conséquent, il faut essayer de tourner l'obstacle. Et comment tourner l'obstacle? Eh bien, avec des récits d'autant plus imaginaires, d'autant plus enfoncé dans le passé, vous voyez, d'autant plus enfoncé dans notre corps et notre tradition, qu'on peut arriver à trouver... Alors, évidemment, dans la Bible judéo-chrétienne, ça tombe très bien. Ça part du tohu-bohu dans la Genèse et ça finit par le Verbe. Ah ben, ça tombe pas mal. C'est exactement la situation que je veux décrire. Et dans Orphée, c'est un peu la même chose, vous voyez. Et moi, je me suis coincé au milieu, simplement pour essayer de dire ma propre expérience sur cette question, mais pas plus. Mais j'étais entouré là de deux sécurités, c'est-à-dire comment parler du non-sens avec du sens. Voilà, c'était ça la question.
Michel Serres, est-ce que pour terminer, vous voulez dire la fin, errance sans terme?
Oui, très bien. En trois voyages de vie, celui d'Orphée, légendaire autour de la Méditerranée vers ses mères muses, le mien, réel, rationnel et mondial, tous deux descendant un moment vers des enfers sans espoir, celui enfin des récits testamentaires descendant du tohu-bohu vers le Verbe, ce livre de trois enfances, de trois grands récits ouïs comme trois rhapsodies, ce livre de trois fleuves disparates descendant vers l'information maximale, mélange arts et métiers, émotions et raisons, corps et âmes, sciences et religions, scandale. Les choses du monde, les actions des hommes, la raison des œuvres, tout le concret enfin, montrent ce scandale quotidiennement. C'est pourquoi la philosophie le chante.
Merci Michel Serres d'être venu nous parler de musique.
Merci de m'avoir invité.
Parlons d'un cahier de Lerne qui vous est consacré et qui a été dirigé par François Livonnet et Christiane Frémont en 2010, ainsi que Biogé, dont vous êtes venu parler sur cette antenne.
Je voudrais vous dire un mot là-dessus.
Oui.
Une lectrice m'a dit que c'est une chose extraordinaire, qui m'a beaucoup frappé et beaucoup touché par sa justesse et sa précision. Elle m'a dit que musique était la mise en musique de Biogé.
Oui,
c'est exactement ça.
Et j'ai oublié, je voulais vous demander tout à l'heure, pendant toutes les premières parties, vous ne parlez pas de Biogé, mais du monde.
Oui, exactement.
Avec un M majuscule. Et puis dans la partie, justement, sur le chemin religieux, vous réintégrez
Biogé. C'est deux livres qui sont finalement attachés vraiment par la main, vraiment, comme deux jumeaux siamois.
En tout cas, merci d'être venu nous parler de musique aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup.